Alors effectivement, vous l'avez peut-être lu déjà sur le Quad 9, nous allons parler de David et Goliath. Peut-être je vais vous proposer aussi ce matin une lecture légèrement différente de ce dont vous avez l'habitude. En lisant ce texte, on a quelquefois des réflexes. Sont-ils bons ? Nous conduisent-ils dans ces réflexes dans la bonne direction d'interprétation ? En tout cas, je ne prétends pas détenir la bonne interprétation, mais en tout cas une bonne interprétation, je pense. Je vous invite à la lecture déjà de ce texte. Alors, dans 1 Samuel 17, c'est un long chapitre et nous allons en lire quand même de longs extraits. Tout petit mot de contexte, l'armée des Philistins et celle d'Israël se font face, chacun sur une colline, et entre ces deux collines, une vallée qui les sépare. Un soldat philistin quitte le rang et il s'avance entre les deux armées. Il cherche quelqu'un qui peut se battre contre lui. Ce soldat est de la ville de Gath, il s'appelle Goliath. Il mesure à peu près 3 mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse pèse 60 kilos. Sur sa poitrine, en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la barre d'un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de 7 kilos. Celui qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath s'arrête et il crie aux soldats d'Israël. Vous vous mettez en ordre de combat ? Pourquoi donc ? Je suis un Philistin et vous, vous êtes les esclaves de Saül. Choisissez parmi vous un homme pour lutter contre moi. S'il arrive à me battre et s'il me tue, les Philistins deviendront vos esclaves. Mais si c'est moi qui arrive à le battre et si je le tue, c'est vous qui deviendrez nos esclaves. Et il ajoute encore, « Aujourd'hui, je provoque l'armée d'Israël. Envoyez-moi un homme et nous allons lutter l'un contre l'autre. » Quand Saül et toute l'armée d'Israël entendent ce que Goliath dit, ils sont paralysés par la peur. Là, je saute quelques versets parce que c'est à ce moment-là que David, un jeune berger, va arriver car il était venu prendre des nouvelles de ses frères au front. David dit au roi, « Personne ne doit se décourager à cause de ce Philistin. Moi, j'irai me battre contre lui. » Saül lui répond, « Non, tu ne peux pas aller te battre contre lui. Toi, tu n'es qu'un jeune garçon. Et lui, c'est un soldat depuis sa jeunesse. » Alors David dit, « Quand je garde les moutons de mon père, si un lion ou un autre animal sauvage vient et prend un mouton du troupeau, je cours derrière lui. Je le frappe et j'arrache le mouton de sa gueule. Et s'il vient contre moi, je le saisis à la gorge et je le tue. Voilà comment je fais pour tuer les lions et les autres animaux sauvages. Je vais faire la même chose à ce Philistin, non circoncis, qui a insulté l'armée du Dieu vivant. Le Seigneur me protège des griffes du lion et des autres animaux sauvages. Il va aussi me protéger des attaques de ce Philistin. » Alors Saül dit à David, « Pars donc et que le Seigneur soit avec toi. » Saül donne à David son équipement de guerre, il lui met son casque de bronze sur la tête et il l'habille de sa cuirasse. David met encore l'épée de Saül par-dessus la cuirasse. Il essaye d'avancer, mais il n'y arrive pas. En effet, il n'est pas habitué à cet équipement. Alors il dit à Saül, « Avec tout cela, je ne peux pas marcher, je n'ai pas l'habitude. » Et il enlève l'équipement de Saül. David prend son bâton et il va choisir 5 pierres bien lisses au bord du torrent. Il les met dans son sac de berger. Il prend sa fronde dans sa main et s'avance vers Goliath. Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui. Goliath regarde David. Quand il le voit, il le juge comme un petit rien du tout. En effet, David est encore jeune. Il a le teint clair et un beau visage. Alors Goliath crie à David, « Tu viens contre moi avec des bâtons ? Tu me prends donc pour un chien ?» Et il lance à David des malédictions de la part des dieux philistins. Il crie encore, « Viens ici, je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages. » David lui dit, « Toi, tu viens contre moi avec une épée et une lance et une autre arme. Et moi, je viens contre toi au nom du Seigneur de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui même, le Seigneur va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que les Israélites ont un Dieu. Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront. Le Seigneur n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le maître de cette guerre et il va nous livrer, vous livrer en notre pouvoir. Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat. Il prend une pierre dans son sac, il la lance avec sa fronde et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce dans son front et Goliath tombe, le visage contre le sol. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath et le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué sans épée. David court et s'arrête près de Goliath. Il tire l'épée de Goliath de son étui et lui coupe la tête. Alors, quand les Philistins voient que leur champion est mort, ils se mettent à fuir. Les soldats d'Israël et de Juda poussent leurs cris de guerre et ils poursuivent les Philistins jusqu'à l'entrée de Gath et d'Écron. Les corps des Philistins couvrent la route de Charaïm jusqu'à Gath et Écron. L'histoire de David et Goliath est sans doute l'une des histoires, l'un des récits les plus connus de la Bible. Elle est utilisée même comme une métaphore dans le langage courant quand on évoque un combat ou un affrontement qui semble perdu d'avance. On pense souvent, en lisant ce texte, qu'on assiste à un épisode véritablement miraculeux avec la victoire du jeune berger sans expérience qui n'avait qu'un bâton et sa fronde face au géant Goliath armé jusqu'aux dents. En réalité, je pense que oui, il y a une part de miracle, mais pas totalement. David a terrassé Goliath. Peut-être il était moins expérimenté que Goliath au combat, mais à y regarder de plus près, cela n'a rien d'étonnant. L'issue de ce combat, si d'ailleurs on peut parler de combat, parce qu'il n'y en a pas véritablement eu, était en réalité assez prévisible. Et dans ce que je vais vous dire dans la suite, maintenant je dois vous dire que je suis redevable à une vidéo que j'ai vue sur Internet d'un certain Malcolm Gladwell, dans un TED Talk, c'est des discours courts, percutants, et il a intitulé son discours « L'autre histoire de David et Goliath ». Je ne vais pas reprendre tous les éléments de cette vidéo, mais m'en inspirer et prolonger les leçons que nous pouvons tirer de ce récit biblique pour nous. Et la première chose que je dois dire, c'est que David était bien mieux armé qu'on ne le pense. Des fois, on dit David n'avait que sa fronde et son bâton. Mais David est intelligent, vif et courageux. Il n'était certainement pas naïf. On sait d'ailleurs quel roi il a été par la suite. S'il a voulu relever le défi, c'est qu'il pensait bien avoir une chance de l'emporter. À aucun moment, d'ailleurs, il ne semble douter de cela dans le texte. Il a quand même une certaine expérience, d'ailleurs, David, au combat. Pas forcément dans le cadre d'une armée, mais en tant que berger. Il a souvent défendu son troupeau face aux lions et aux loups, et ce n'était pas une mince affaire. Saül veut l'aider en lui proposant de revêtir son armure, mais il n'arrivait même pas à marcher avec, alors il renonce et préfère ne prendre que son bâton, quelques pierres bien lisses et sa fronde. Après tout, dans les règles que Goliath donne de ce duel, qui était là en fait pour éviter un affrontement entre deux armées, il n'y avait pas de règles bien précises pour ce combat. David peut venir comme il le souhaite pour affronter Goliath. Il n'était pas obligé de se déguiser en quelque sorte en soldat d'infanterie, comme Saül veut le lui imposer. La fronde était une arme redoutable. ce n'était pas un simple lance-pierre. Rien à voir avec les jouets pour enfants. C'était l'arme des bergers dans l'Antiquité pour défendre les troupeaux face aux prédateurs, et c'était aussi une arme de guerre. Les armées antiques avaient des bataillons d'archers et de frondeurs, et face à un soldat d'infanterie, fut-il muni de sa cuirasse, eh bien, comme l'était Goliath, armure, épée, bouclier, ben le combat doit logiquement être gagné par David. Une fronde, c'est une poche, généralement en cuir, dans laquelle on place un projectile prolongé par deux lanières de longueur inégale. Une fois le projectile placé dans la poche, le lanceur tenait la lanière longue dans la paume et la courte entre le pouce et l'index. Il faisait tournoyer sa fronde à grande vitesse, jusqu'à 6 à 7 tours par seconde, puis lâchait la lanière la plus courte en direction de la cible. Le projectile atteignait alors une vitesse importante qui pouvait aller jusqu'à plus de 200 km/h. Une pierre de fronde avait une puissance d'impact similaire à certains petits revolvers capables de percer l'os du crâne ou au moins de le fracturer. Les frondeurs entraînés pouvaient tirer avec une grande précision. Les frondeurs des Baléares, par exemple, étaient réputés les meilleurs. Ils étaient recrutés par l'armée romaine et étaient capables de viser juste à une distance de 150 mètres avec leur fronde. Et alors, je vais juste prendre mon téléphone pour vous lire un verset. J'aurais dû y penser avant. Et dans l'armée aussi d'Israël, il y avait aussi des frondeurs et en juges. Alors, ça passe inaperçu peut-être quand on le lit comme ça, mais avec l'histoire de David et Goliath, on peut mettre ce verset des juges en lien qui nous parle justement des frondeurs et de leur redoutable précision. Juges au chapitre 20, le verset 16, que je vous lis donc dans un instant. Juges 20, verset 16, où il est question de parmi toute cette troupe, il y avait 700 hommes d'élite qui étaient gauchers. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. Il s'agit donc d'un bataillon, je ne sais pas s'il faut dire bataillon, en tout cas de frondeurs, dans l'armée des Benjaminites. C'est d'ailleurs assez curieux parce que les Benjaminites, ça veut dire Benjamin, ça veut dire fils de la droite, et ils étaient gauchers. Donc, il pouvait viser de façon extrêmement précise, nous dit le texte biblique. Avec sa fronde, David pouvait bien espérer tuer le géant Goliath. Il est allé au combat avec l'arme qu'il maîtrisait. Le texte précise que David choisit aussi minutieusement 5 pierres dans le torrent, des pierres bien polies, bien aérodynamiques, avec une bonne densité, des pierres qui lui permettront de tirer avec une grande précision. Certains disent même que dans cet endroit, comme je n'ai pas pu le vérifier, je vous le dis avec grande prudence, que dans cet endroit, on trouverait peut-être des pierres aussi légèrement plus lourdes qu'à d'autres endroits, étant donné la géologie. Peut-être, en tout cas, peu importe. David ne va pas au combat les mains dans les poches. Il est faux de dire qu'il n'avait que sa fronde, comme si c'était quelque chose de ridicule. Il y va avec une arme qu'il maîtrise parfaitement, une arme redoutable. Il est bien mieux armé que ce que nous aurions pu penser. Et il y va, et c'est aussi là sa force, avec une pleine confiance en Dieu. Deuxième élément, Goliath était bien plus vulnérable aussi qu'on ne le pense. Goliath était certes impressionnant, Nous ne pouvons pas connaître sa taille de façon exacte. Certains parlent d'une taille d'environ 3 mètres, dans la traduction que je vous ai lue. D'autres, en faisant différemment les calculs, arrivent à une taille de 2,10 m. Alors, c'est un peu moins impressionnant, mais ça l'est quand même. Un jour, je me souviens, j'étais dans le train, et puis j'ai vu tout d'un coup des gars très, très grands. En fait, c'était une équipe de basket. Et je pense qu'ils avaient tous 2 mètres ou un peu plus. C'était hyper impressionnant, déjà. On peut voir aussi Mathias, par exemple, avec sa grande taille. Tout au long de l'histoire, en tout cas, il y a eu des personnes de très grande taille. Alors là, pourquoi on ne peut pas exactement mesurer ? Parce que les coudées et puis les mesures qui sont utilisées dans la Bible, on ne sait pas exactement leur taille. En tout cas, tout au long de l'histoire, il y a eu des personnes de très grande taille. En 1879, il paraît qu'on montrait à Berlin un géant chinois de 2,79 m, d'après un article du journal Daheim. En tout cas, l'homme le plus... Je ne sais pas si on peut pas vérifier non plus cette information, est-ce que c'est vrai ou pas, mais dans l'histoire moderne, alors là par contre on en est certain, l'homme le plus grand de l'histoire moderne, en 1940, est l'Américain Robert Wadlow, qui a atteint la taille de 2,72 m. Tenez-vous bien, à l'âge de 22 ans seulement, âge auquel il est décédé. Ces géants connus dans l'histoire sont en fait des êtres humains qui sont atteints d'une maladie, tout simplement, qu'on appelle l'acromégalie ou alors encore le gigantisme. Le corps de ces géants ne cesse pas de produire des hormones de croissance et c'est dû en général à une petite tumeur qui compresse l'hypophyse et qui dérègle son fonctionnement et du coup ces hormones de croissance sont produites en permanence. Et souvent les personnes atteintes de cette maladie marchent avec des béquilles en raison de leur poids aussi. Robert Wadlow pesait 199 kilos lorsqu'il est décédé. Et il paraît pas gros du tout, puisqu'étant donné sa très grande taille, c'était le poids normal. Et la très grande taille est donc aussi un handicap, tout simplement, au quotidien. Et on peut facilement l'imaginer sur un champ de bataille aussi. Goliath dépassait tout le monde de la tête et des épaules, et il était armé jusqu'aux dents. Il terrifiait tout Israël. Et en réalité, la force de Goliath était tout entière dans la peur qu'il savait inspirer. D'ailleurs, on a une description de plusieurs versets de tout l'équipement de Goliath, etc., du poids de sa cuirasse, du poids du fer de sa lance, etc. Et puis, cela paralyse de peur le peuple d'Israël. La description, effectivement, que la Bible nous fait de tout cet équipement militaire, avec son casque, l'armure et tout ça, est justement là pour susciter la peur. Ça fonctionne, parce que personne n'ose d'ailleurs relever le défi dans l'armée d'Israël. Même pas les archers, on peut supposer qu'il y avait aussi des archers, ou les frondeurs de l'armée de Saül qui avaient le potentiel, sur le papier, de battre Goliath. Mais ils ont peur. Le texte biblique nous laisse voir encore dans certains détails que Goliath avait encore d'autres faiblesses. Il est certes grand et fort, mais il est lent. Le texte biblique nous dit qu'il s'approche petit à petit, ou peu à peu, selon les traductions de David. Il lui demande aussi de venir, comme s'il ne le voyait pas bien. Et lorsqu'il finit par s'avancer en marchant vers David, ce dernier court pour lui lancer le projectile. Vous voyez, Goliath et sa lenteur, due à sa grande taille. On peut supposer même que Goliath avait des problèmes de vue. Pourquoi dit-il à David qu'il s'avance vers lui avec des bâtons ? Et c'est bien le pluriel qui est utilisé en hébreu, alors que David n'en avait qu'un. Il a pris son bâton, nous dit le texte, et sa fronde. Il ne semble pas d'ailleurs non plus, Goliath, remarquer que David a une fronde, justement. Il pense qu'il a des bâtons. Et puis cet homme aussi qui est mentionné deux fois dans le texte, qui le devance, pour porter son bouclier? N'était-ce pas pour le guider aussi? Pourquoi donc Goliath avait-il besoin que quelqu'un porte son bouclier s'il était si fort et si redoutable? En réalité, la taille immense de Goliath devait donc être due à cette maladie que j'évoquais il y a quelques minutes, cette maladie, l'acromégalie ou le gigantisme, pouvait entraîner des déficiences visuelles et aussi forcément des difficultés de locomotion. Le géant Goliath était impressionnant dans son armure éclatante, mais il était aussi vulnérable, surtout face à un jeune homme vif et armé d'une arme de jet. La vraie force de Goliath, c'est la peur qu'il sait si bien manier, mais qui ne semble pourtant pas avoir d'impact sur David. Goliath essaye de l'impressionner, même quand David est plus proche de lui. Quand il est face à lui, Goliath tente de l'humilier en lui lançant des malédictions, mais ça n'a pas d'effet sur David, qui au contraire répond avec aplomb « Je vais te tuer et te couper la tête ». On voit d'ailleurs sur les représentations, les tableaux, même anciens, qui représentent la victoire de David sur Goliath, souvent David qui tient la tête de Saül, une tête énorme aussi, dans ses mains. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que David prenne le dessus sur Goliath. Il n'y a même pas de combat. Tout est réglé en quelques secondes. Une pierre bien lancée avec la fronde de David. David atteint Goliath en plein front, là où l'armure ne protégeait pas le géant, et c'est fini. Quelques leçons maintenant que nous pouvons tirer de ce texte. Le premier ennemi à vaincre, c'est la peur. Et je vous ai mis là une citation de Raphaël Nadal, on ne le cite pas souvent au culte. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas, mais en tout cas je le cite cette fois-ci. « Perdre n'est pas mon ennemi, c'est la peur de perdre qui l'est. » Quand on voit sa combativité sur le terrain, je pense que c'est vraiment de lui, ce petit mot-là. La peur est une arme redoutable. On la voit utilisée dans les relations humaines pour intimider, pour impressionner. C'est une arme utilisée aussi pour manipuler, souvent utilisée à des fins de pouvoir, de domination. La peur est présente d'une manière ou d'une autre en chacun de nous, et elle peut avoir de nombreuses sources. Elle peut susciter aussi frustration et souffrance. Elle peut nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Une des dernières paroles de Jésus à ses disciples, c'était justement « N'ayez pas peur ». Et il y a beaucoup de versets dans la Bible qui nous encouragent à ne pas avoir peur. Il y en a même un qui dit « Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous ?» Alors comme David, assuré d'être dans la main du Seigneur, quand il répond au défi du géant Goliath, nous pouvons nous aussi être assurés d'être dans la main de Jésus-Christ face à tous nos adversaires, cette main qui nous tient de façon ferme et solide, de laquelle personne ne peut nous arracher. Et face à tous nos adversaires, nos défis et nos épreuves, nous pouvons avoir la même assurance que David. Face à tous les géants, nous n'avons pas besoin d'avoir peur, car nous sommes dans la main d'un plus grand géant encore. Leçon numéro 2, les géants ne sont pas aussi forts et puissants qu'ils en ont l'air. J'ai trouvé cette petite illustration sur Internet, alors j'ai eu du mal à la trouver, parce qu'on trouve l'autre. On trouve le chat qui se regarde dans le miroir et en réalité il voit un lion. Peut-être que ça flatte notre ego, l'image dans ce sens-là, mais là j'ai trouvé l'inverse, alors c'était trop beau pour ne pas le mettre en illustration. Les apparences sont trompeuses, surtout quand on a peur. Bien souvent, les géants auxquels nous pouvons faire face dans notre vie ne sont pas aussi puissants et indestructibles qu'ils en ont l'air. Leur force réside dans la peur qui les rend plus dangereux et qui nous fait les voir plus forts, plus grands, insurmontables, des fois à nos yeux. David, lui, n'a pas vu en Goliath un géant, invulnérable, mais un soldat ennemi qu'il pouvait tuer avec sa fronde. Il a vu le petit chat. Sa façon de voir Goliath n'a pas été conditionnée par la peur, mais par sa foi. Et alors, il a vu les choses autrement que tous les autres. La foi est l'arme la plus efficace face à la peur et face à tous les géants de notre vie. Et encore une leçon, je pense, qu'on peut tirer de ce texte, c'est que c'est en étant nous-mêmes que nous remportons la victoire. Alors c'est Oscar Wilde qui dit avec un peu d'humour, « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. » Quelqu'un qui n'avait pas forcément une vie dont on approuverait la moralité, mais cette citation vaut le coup. Si David avait accepté d'aller au combat avec l'armure de Saül, il aurait été défait. Il ne pouvait pas la porter, elle était trop lourde et puis il n'était pas entraîné d'être un soldat d'infanterie. C'est donc avec son arme de berger qu'il est allé affronter Goliath, l'arme qu'il maîtrisait et qu'il savait être efficace. C'est en étant lui-même que David est allé au combat et a vaincu, en mettant en avant aussi son expérience et ses qualités. Il s'est battu contre Goliath sur le terrain qu'il maîtrisait lui. C'est sa foi et sa confiance en Dieu qui a ensuite fait le reste. C'est elle qui a triomphé de la peur et Dieu a utilisé les capacités et les forces de David pour le faire vaincre. La promesse que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens est bien vraie. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-dessus de vos forces. Quand vous serez tentés, Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir. Le récit de David contre Goliath est en fait une exhortation très forte à placer notre confiance en Dieu pour vaincre la peur et les géants qui nous font face. Amen.